Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous allons cette fois-ci à la Remoutarier, sur la commune de Martrain, à la rencontre de Sylvain, semencier depuis quelques années pour la coopérative Graines del País.
Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Eh ben moi, c'est Sylvain. J'habite à Martrain, sur la ferme d'Armoutarier. Je fais principalement du maraîchage et de la production de semences.
D'accord.
De maraîchage aussi.
Vous êtes plusieurs, non, il me semble, sur cette ferme ? Plusieurs agriculteurs ?
Plusieurs agriculteurs, je ne sais pas, mais on est plusieurs. C'est plus un lieu de vie qu'une ferme ou qu'une exploitation. Il y a différentes personnes qui pratiquent l'agriculture d'une manière plus ou moins professionnelle, quoi.
D'accord.
Je dirais qu'il y a peu près, on est deux, on va dire, sur qui ont une activité professionnelle dans l'agriculture.
D'accord. Vous êtes en GAEC ?
Non.
Pas du non.
C'est une structure associative qui a un bail emphytéotique sur ce lieu. Le groupe qui vit là fait après un petit peu décide ensemble de ce qu'il fait du point de vue agricole et autres sur ce lieu, quoi.
On est presque sur un principe de ferme collective.
On est sur un principe de ferme collective, sauf que tout le monde ne pratique pas l'agriculture.
Et alors, toi, depuis combien de temps tu fais de l'agriculture ?
Eh bien, professionnellement, depuis 4 ans. Avant, j'ai eu des boulots, mais de salarié, j'étais pas à mon compte.
Tu as été salarié agricole ?
J'étais berger, j'ai bossé chez des maraîchers, ouais.
Tu as toujours fait de l'agriculture ? Tu as toujours travaillé dans l'agriculture ?
J'en suis venu, l'agriculture, j'ai d'abord fait mon jardin, et puis des jardins, on va dire, de subsistance ou d'autonomie, du coup, pour des groupes de gens, quoi. Ici, par exemple, on est en moyenne une quinzaine, je pense, et puis du coup, je m'occupe du jardin à la base pour nourrir les gens. Du lieu, mais c'est pas professionnel du coup.
Et t'as toujours fait ça ? T'as toujours été dans l'agriculture ?
Non, moi j'ai fait des études de physique. J'ai pas pratiqué beaucoup professionnellement parce que de toute façon ici y a pas de.
Oui, un labéron.
Y a pas grand chose à faire, puis je supporte pas les villes. Donc...
Ouais.
Et puis j'ai trouvé des trucs plus intéressants, j'ai trouvé à faire là-dedans. Ça doit faire 10 ans que je fais de l'agriculture, mais. Mais ça fait 3-4 ans que j'ai fait mon activité autour des semences, quoi. Où je me suis dit que voilà, j'allais développer une activité qui allait me rapporter de quoi vivre autour de l'agriculture, quoi.
Pourquoi tu as choisi les semences comme branche d'agriculture ?
Un peu par hasard, ça me plaisait bien déjà comme aspect des choses. Et puis j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. En fait, j'avais cette pratique, on va dire, de quasi-maraîchage, parce que quand tu fais à manger pour une vingtaine de personnes, c'est du quasi-maraîchage. Et je me disais, ben voilà, comme tu as déjà ça, un petit peu l'infrastructure qui va avec, je vais essayer de trouver quelque chose en plus qui permette de me dégager un petit peu un revenu. Et du coup, j'ai cherché un petit peu tout ce qui pouvait se faire là-dedans. J'ai vu que sur le marché de Saint-Aff, il y a déjà une dizaine de maraîchers. Du coup, je me suis pas trop lancé là-dessus. Et puis, alors, c'était un coup de chance. J'ai regardé vite fait sur Internet les entreprises de semences, comme ça, pour voir ce qui se faisait. Puis j'en ai appelé une, et c'était bon.
Et laquelle ?
Graines del País.
Graines del País.
Qui me va hyper bien, parce que au départ, c'était pas ça, mais maintenant, c'est une coopérative. Donc c'est tous les salariés qui gèrent l'entreprise, en gros. Ça fonctionne comme un dépôt-vente, donc c'est pas du tout une entreprise de... Ça fournit, on va dire, un cadre... et une organisation, et après en fait toi t'as tes semences là-dedans, et je suis pas un salarié ou je suis pas une petite branche de l'association, en fait, de l'entreprise. C'est un travail en commun, quoi.
Y a pas de formation pour être semencier ?
Y a pas de formation, y a pas de statut, en fait. Le seul statut qui existe en dehors de d'établissement semencier, c'est très codifié, hein, le milieu de la semence. Donc soit tu es un établissement semencier, ce qui est une personne morale avec tout un cadre administratif, toi en fait tu es considéré comme agriculteur multiplicateur, ça s'appelle. Donc en fait ça porte son nom, c'est-à-dire que toi tu es une sorte d'agent à qui on apporte un kilo de graines et qui en rend 1000, quoi. Mais tu es censé avoir juste ce rôle de multiplicateur.
Donc toi tu ne vends pas le fruit de ton travail. Quelque part, il fait partie du pot commun de Graines del País, et c'est eux qui la distribuent, quoi.
J'en ai vendu un peu comme ça, hein, à des maraîchers, à des potes maraîchers et tout.
Ouais.
Ou donné pas mal. Mais non, je le fais pas pour le moment.
Mais parce que c'est hyper sensible, la semence.
Voilà.
Comme tu disais, del País aussi a eu un procès aux fesses, non ?
Non. Des ennuis, mais pas de procès.
Pas plus.
Des mises sous pression régulièrement.
D'accord.
Oui. Mais bon, depuis donc il y avait ce catalogue. Il y est toujours, hein, ça existe toujours. Mmh. Mais depuis qu'il y a eu tous les procès avec Cocopelli et tout ça autour de la semence, en fait, ils ont arrêté d'appliquer la législation. Et même les gros semenciers comme Villemorin et tout, maintenant, ils proposent des variétés qui ne sont plus dans le catalogue. Donc ça, ils leur font jamais.
La brevetisation du vivant et des semences. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, ça me faisait penser aux semences OGM. qui ont tendance à coloniser les plants d'à côté.
Ah ouais.
Et après, Monsanto, ils viennent te voir et te disent, regardez vos plants, ils ont des OGM à nous.
C'est l'exemple qui est insupportable de ce truc. Ils l'ont fait, ils ont gagné leur procès.
En plus, ouais. J'imagine.
Ils l'ont fait au Canada et tout, ils ont gagné leur procès. Ouais.
C'est quand même problématique, en fait. Ils sont en train de ruiner les petits juste en se mettant à côté d'eux, quoi.
Ah ouais, voilà ça. Ouais. Je pense que si j'avais été moi victime de... d'un de ses jugements, je sais pas quelle aura l'action, mais
je ne garantis rien.
Là, pour radicaliser les gens, je pense.
Est-ce que tu en vis bien ?
Non.
Est-ce que tu gagnes assez d'argent ? Est-ce que tu pars en vacances ? Est-ce que tu as du temps pour toi ?
Alors, j'ai du temps pour moi, parce que de toute façon, j'en prends. Ah. Je pars en vacances, parce que j'ai pas besoin de sous pour mes vacances, en général. Et je gagne pas beaucoup d'argent. Voilà.
Ah, s'il faut changer la voiture, c'est un peu la misère.
J'ai des voitures pas chères.
J'ai même un vélo.
Ouais. Là, il faudrait que je passe mon contrôle technique. Bon, voilà. Non, j'en vis pas bien. J'en vis quand même de mieux en mieux. Ça commence à être correct. Ah. Notamment, le Covid nous a rendu riches.
Et comment ça se fait ?
Ah ben ça, je sais pas. Faut demander aux gens.
Ah bon ?
Ouais.
C'est-à-dire, les gens se sont mis à faire du jardin, en fait.
Ah ouais, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires l'an dernier.
Non, doublé.
60%, 70%.
Ah bon ça. Ouais. Ah dis donc.
Et cette année,
ça repart pareil.
Ça a l'air de faire pareil, en plus de l'année dernière.
Ah oui, ça va rajouter. Par rapport à il y a deux ans, c'est...
Et c'est un phénomène mondial. On s'est un peu renseigné, même aux États-Unis et tout, c'est pareil. Toutes les petites entreprises de semences bio, de machin comme ça, ils se font cartonner.
D'accord.
Ça marche hyper bien.
Bon, donc tes revenus s'améliorent.
Mes revenus s'améliorent normalement, ouais.
Tu vas peut-être pouvoir acheter une voiture neuve un jour.
Ouais.
Pour revenir à la ferme, vous avez combien d'hectares sur la ferme ?
Pas mal.
Pas mal.
38, mais 38. Que 10-12 de champs.
D'accord. D'un seul tenant ?
Le reste, c'est de la forêt. Ouais, c'est d'un seul tenant, ouais.
Le reste, c'est de la forêt. Et donc, vous avez développé la partie semences ? La partie maraîchage.
Semences, maraîchage, on fait des fruits aussi un peu.
Alors, on va passer aux questions philosophiques. T'es prêt ?
Ouais.
On se prend de sourcils et tout.
Ouais, d'accord.
Donc, bon, ça fait un petit moment que t'es dans le milieu agricole, même si tu en vis professionnellement, depuis 4 ans.
Ouais.
Mais est-ce que tu vois, est-ce que t'as une idée de la direction que prend l'agriculture, vers quoi elle se dirige ?
Et oui, j'ai plein d'idées.
Ah, ben écoute, ça m'intéresse.
Quand je sais pas quoi faire, je réfléchis des fois à des questions.
C'est bien, t'as du temps pour toi.
Quand je désherbe, tranquille. Le problème, c'est que là, l'agriculture, elle part dans plein de directions qui sont... Alors donc, tu vois de moins en moins comment elles vont arriver à se concilier, mais ça, c'est général dans la société, je dirais. Mais c'est sûr qu'entre le paysan de la Beauce, enfin le paysan de la Beauce, je sais pas comment il faut le nommer, mais... qui aujourd'hui, en gros, à 1000 hectares, si c'est un petit, et une moissonneuse qui est pilotée par satellite, qui coûte 800 000 euros, et tous ceux qui veulent se faire des buts de permaculture et qui galèrent à se trouver un mi-hectare et qui gagnent 3 euros de l'heure avec leur binette, et ben...
Il y a beaucoup de possibilités.
Il y a un vaste fossé. Je ne sais pas trop comment... Je ne sais pas trop ce qui peut devenir.
Parmi tous ceux que j'ai pu interroger jusqu'à présent,
ouais.
Il y en a qui disent qu'il va y avoir un agrandissement des fermes qui va continuer.
Ouais.
Et avec un parallèle des fermes à échelle plus humaine, plus dans le local. Vraiment la petite structure, voire une production vraiment de très bonne qualité qui sera réservée à une faible clientèle finalement.
Oui.
Et que en fait, c'est l'intermédiaire qui risque de disparaître. Tu le vois comme ça, toi aussi ?
Ben, la ferme moyenne, c'est le lien entre les deux. Donc, effectivement, elle, plus ça s'est éloigné, plus elle, je sais pas comment elle...
Ouais.
Je sais pas quelle peut être sa place, effectivement. Il reste quelques modèles comme ça. Le truc, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à s'intégrer dans des économies locales, parce que dans la grande économie, je vois pas quelle place ils peuvent avoir aujourd'hui. Ça dépendra beaucoup de l'évolution de, ouais, de la vie locale ou de l'économie locale. Et de les... C'est les gens qui vont décider de ça, quoi, avec leurs habitudes de consommation et de vie, quoi. Mmh. Si, en fait, ces gens-là, on vient leur acheter leur production et qu'on leur dit que ce qu'ils font, c'est bien, ce qu'ils font, c'est bien et tout, je pense que ça va continuer. D'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui sont motivés à faire ça, en fait. Après, pour moi, les toutes petites structures dont tu parlerais, c'est quasiment... Enfin, tel que je le vois, c'est tout ce qui serait lié à la sphère de la permaculture ou au monde de la permaculture qui est beaucoup numérique, en fait. Qui tourne énormément autour de vidéos sur YouTube, Facebook et de ce monde-là, quoi. Le truc, c'est que tout ça, en fait, dans tout ça, il n'y a aucun... Tel que je le vois, en fait, il n'y a pas de production là-dedans. Donc, si tu as un modèle où, en fait, il y a les méga-fermes industrialisées et de l'autre côté, les petites fermes, donc, qui ont un blog, qui font des vidéos, machin, qui font des stages de permaculture et tout ça, et qui, en fait, vivent des stages de permaculture. En fait, s'il n'y a que ça, en fait, il n'y a qu'une agriculture, c'est l'agriculture industrielle. Et sinon, bah, il y a... Je trouve pas ça nul, hein, je trouve pas ça inutile, mais c'est pas de la production agricole.
Et penses-tu que les agriculteurs ont intérêt à se regrouper,
ah ouais,
à travailler en commun?
Ah bah ouais.
Et ça se fait déjà ou
bah c'est, ça se fait un peu, ça se fait un peu. Bah, Grand Del Pays, c'est un peu ça finalement, ouais. Des trucs comme ça. Mais non, ça manque énormément, quoi. Si, t'as des trucs, bah, les pays d'endurance, tu vois, où il y a des structures comme
puis
ça. Mais
des raspes aussi.
Putain, ouais. Moi, je vois les maraîchers et tout, c'est complètement con, ce qu'on fait. T'as des dizaines de gens qui ont des toutes petites structures, qui font des tout petits marchés, qui sont tous vraiment en galère, qui essayent tous d'assurer toutes les productions, genre des tonnes et des tonnes de productions différentes, qui souvent bossent tout seuls, du coup bossent tout le temps. Se mettre ensemble pour faire des marchés, se mettre ensemble pour faire réfléchir des productions, parce que l'air de rien, il y a quand même des trucs qui poussent bien à un endroit et pas à un autre. Il y a des trucs que des gens, bah, ils les maîtrisent bien et pas d'autres. Et en fait, si tu réfléchis pas toutes ces questions-là en commun, et ben en fait, du coup, c'est des trucs au-dessus qui vont les réfléchir pour toi et qui vont te prendre... Enfin, traditionnellement, c'est le rôle des techniciens agricoles, des grandes entreprises, des grandes coopératives, de tout ce qu'on appelle l'intégration industrielle, quoi. Mais du coup, c'est eux qui vont gérer la mise en commun et la commercialisation et tout ça. Donc, en fait, si on ne prend pas cette place-là,
ils la prendront. Oui, ils prendront la décision à notre place.
Ouais, ouais. Et quelque part, on pourra toujours critiquer, mais en fait, dans notre société, il y a besoin d'avoir ça. Donc si tu le prends pas en main, quelqu'un le fera à ta place.
Ouais. C'est pas dit que ce soit à ton avantage.
Ce sera jamais à ton avantage.
Oui, donc
il y a un truc que je trouve moi quand même vachement intéressant et encourageant, dans lequel je fais pas partie pour le moment parce qu'effectivement pour le moment je trouve pas le temps. C'est Nature et Progrès là-dedans, qui est pas que un truc de certification.
Oui, alors aussi... c'est quoi, ça consiste en quoi exactement Nature et Progrès?
Nature et Progrès, c'est l'organisme historique de certification du bio. Et en fait, quand le label AB s'est fait, il s'est fait sur le modèle de Nature et Progrès, ils ont pris leur cahier des charges. C'est l'Europe qui a fait le label AB, et ils ont pris en gros le cahier des charges de Nature et Progrès, qu'ils ont changé, qu'ils ont adapté à leur sauce. Et ils ont viré Nature et Progrès 6 mois après de la certification AB. Du coup, personne n'est vraiment dans Nature et Progrès, parce qu'en fait, il y a une petite aide agricole à l'agriculture bio, qui est le crédit d'impôt, que tout le monde a. À partir du moment où tu es certifié bio, tu l'as, c'est 3 000 euros par an. Donc, quand tu es un petit maraîcher, 3 000 euros par an, c'est pas du tout négligeable.
Ouais, tu les prends.
Tu les prends. Et du coup, la certification Nature et Progrès ne te donne pas droit à ces 3 000 euros, alors que la certification AB, si.
Ah oui.
Donc, personne ne peut la prendre. D'ailleurs, c'est pas vrai, il y a des gens qui la prennent quand même, mais en général, ils prennent les deux, du coup. Ouais. Du coup, à la base, c'est un organisme de certification bio, mais pour moi, c'est quand même c'est un truc qui regroupe donc les agriculteurs et les consommateurs. Nature et Progrès, ils ont été foutus dehors de label AB sur leur mode de contrôle. Ça a été a priori le truc où ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et en fait, le label AB, donc, c'est des organismes de contrôle qui contrôlent d'ailleurs en général plein d'autres choses. Ils peuvent, ça peut être les organismes de contrôle du label, ils peuvent aller contrôler chez des conventionnels qu'ils mettent bien tel produit et aller contrôler chez toi que tu mets bien pas tel produit. Mmh. Tu vois, c'est des trucs qu'ils contrôlent, quoi.
D'accord.
C'est, en général, ils sont basés à Paris, ou je sais pas où.
Ils connaissent très bien le milieu à l'école.
Et enfin, en gros, c'est des contrôleurs professionnels qui contrôlent tout un tas de trucs. Là, ils ont un cahier des charges précis à contrôler, ils le contrôlent, hop. Alors que Nature et Progrès, c'est donc des associations locales qui regroupent normalement des producteurs et des consommateurs. Et c'est de l'autocontrôle, c'est-à-dire que du coup, ben, c'est tel groupe. Donc en général, il y a au moins ce qu'on appelle un consommateur et un producteur qui vont venir tous les ans sur une ferme, regarder comment ça se passe. Et après, normalement, regarder un peu les mêmes choses que pour le label AB, sauf qu'il y a beaucoup d'autres... Il y a beaucoup d'autres critères dans le truc de Nature et Progrès. Tu vois, si t'as des Marocains qui viennent dans ta serre et qui dorment dans ta serre et qui ramassent les tomates comme à Almeria ou je sais pas quoi, qui est certifié AB, et ben à Nature et Progrès, ça passera pas. Ça, c'est sûr, ça passera pas, quoi.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Commencer par là.
Allez. La ferme, tu sais de quand elle date?
Il y a des panneaux un peu partout, il y a des trucs gravés.
Ouais.
1800, par là.
D'accord.
Donc les dernières constructions, ça devait être 1800. Mm-hmm. C'est beaucoup plus vieux. On sait que c'était l'ancienne résidence de chasse du seigneur de Coupiac à l'époque où il y avait un seigneur à Coupiac.
Ah, cher.
Ouais. Et je sais pas depuis combien de temps ça a existé.
T'as pas étudié la bio de la ferme?
Un peu, on a regardé, mais c'est pas facile à trouver. Et on sait qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui habitaient là.
Cinquantaine?
Et ouais, il y avait trois étapes différentes.
D'accord.
Ou quatre. Et trois, quatre familles, les familles de l'époque.
Ils faisaient quoi avant ici? De la brebis?
Ils faisaient... je crois qu'ils ont pas fait beaucoup de brebis. Il y a eu une cave d'affinage de Roquefort. Enfin, il y a un moment donné où c'était très local, les caves d'affinage. Mmh. Ils préaffinaient là, puis après, ils l'envoyaient à Roquefort. Il y en avait une ici. Ils faisaient, je crois qu'ils ont fait de la vache ici.
D'accord.
Et, de la brebis sûrement un peu, mais enfin, c'est jamais passé en agriculture moderne, en fait. C'est,
d'accord.
En gros, depuis les années 70-80, c'est plus vraiment exploité.
Oui, c'est quoi, hein? Des gros ballots de laine.
Des gros ballots de foin. Bah ouais, c'est un voisin qui...
C'est de la laine, ça?
C'est de la laine de la conne, c'est un voisin qui nous l'a livré là parce que ça vaut rien.
Et vous en faites quoi?
Bah, il y a Flo qui fait du tissage.
Du tissage?
Alors là, elle a beaucoup trop de laine pour tisser à la main. Hein.
Ouais.
T'en as pour.
Puis, il faut la laver et tout avant.
Puis là. C'est pas de la bonne laine, c'est de la laine, d'accord, de la conne.
Tu peux pas t'en servir pour faire de l'isolant ou un truc comme ça?
Moi, je fais isolation et paillage.
Ouais. Ah, tu pailles avec la laine.
Bah, la laine, c'est hyper bien pour pailler. Ouais. Bon, c'est un peu du luxe, quoi, mais...
Mais ça rentre dans la terre, après, ça se met...
Bah, ça se décompose très, très doucement. C'est, hein? Bah, ça enrichit à mort, c'est hyper riche en azote, la laine. C'est,
ah, merde.
C'est quasiment des... C'est plus de 10% d'azote, la laine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quasiment comme un engrais chimique, sauf qu'il va se libérer sur 3-4 ans, parce que ça se décompose tout doucement. Et ouais, c'est vachement bien en paillage.
Putain, je savais pas qu'on pouvait pailler. Ah ouais, tiens.
Ouais, c'est vachement intéressant. Ah, c'est très équilibré. Par contre, voilà, moi je paille plutôt des vivaces ou des trucs sur lesquels je vais pas intervenir parce que c'est sûr que. Ouais, par contre, ça te fait une espèce de tapis feutré. Et...
D'accord.
Et bon, si t'as des plantes vivaces, elles vont passer à travers quand même. Mm. Pour les autres ventistes, ça marche très bien. Enfin, c'est comme tous les paillages, s'ils sont pas plastiques ou. Ouais. Enfin, s'ils sont pas étanches, quoi.
Oh, mais l'avantage, c'est que tu marches pieds nus là-dessus, c'est tout doux et tout. C'est trop bien.
Ouais. Et puis tu payes pour 3 ans, quoi.
Oui, c'est ça. Tu le fais une fois, t'es peinard après. Ouais. T'es peinard. Donc, où c'est que tu nous amènes là?
Ah bah, en fait, ça ne se voit pas forcément, mais là, c'est une de mes parcelles.
D'accord.
Donc là, c'est de l'engrais vert à droite. J'ai du blé, des. Principalement du blé, des fèves, parce que j'ai semé trop tard mes engrais verts cet automne, j'ai pas eu le temps.
Ici, là, c'est des...
Voilà, et à gauche, là, j'ai semé du coriandre. Ça se voit... Enfin, moi, je fais pas de travail du sol.
Mmh.
Ça fait... Sur cette parcelle, ça fait 6 ans que je le fais pas.
D'accord. Tu sèmes comme ça, à la volée. Enfin, tu sèmes sur le sol.
Voilà. Donc, bah, maintenant, j'ai trouvé... Ça y est, j'ai trouvé des façons de cultiver qui me vont bien. Mmh. Normalement, je fais tout en engrais vert et en... Après, je couche les engrais verts et je sème ou je repique là-dedans. C'est souvent à base de céréales. Il y a beaucoup de céréales. Et, enfin, il peut y avoir tout un tas de trucs dedans. Mais comme j'ai semé tard, là, j'ai les céréales qui ont bien marché. Un peu de moutarde et des févroles. Bon, les févroles, normalement, j'en mets pas trop parce que ça, les ratopiers adorent. Mais cette année, comme je savais que je semais tard et que ça marchait, j'en ai mis quand même. Et après, normalement, je les couche avec cet outil que tu vois là.
Une espèce de rouleau cranté. Un
rouleau faca, maison.
Comment t'appelles ?
Un rouleau faca, c'est.
D'accord.
C'est inventé dans les pays du Sud, au Brésil. Tout.
C'est pour aider les graines à rentrer un peu dans le sol ?
C'est pour coucher les engrais verts. Donc, c'est pour. En gros, la plante, dès qu'elle a épié ou qu'elle est en train de faire ses fleurs, elle est fragile. Enfin. On sélectionne aussi en engrais vert des plantes qui sont fragiles à ces stades-là. Et là, tu passes avec ça. Mmh. Et en fait, ça va pincer la plante tous les 10 cm. Et c'est la meilleure façon qu'elle ne reparte pas. En fait, si tu la coupes, elle repart beaucoup plus. Et là, tu la couches, tu l'affaiblis. En même temps, comme elle n'est pas vraiment coupée, elle essaye de refaire partir sa... Surtout qu'elle est en train de faire sa fleur, donc c'est le moment où voilà, c'est.
Et il faut envoyer.
Il faut envoyer. Mmh. Et du coup, si tu la coupes pas, bah, elle essaye de faire repartir sa fleur et tout, elle n'y arrive pas et elle meurt comme ça. Voilà, on est dur quand même. Hein,
oui, dis donc. Torsionnaire.
On a l'air sympa comme ça.
Torsionnaire.
Mais... et du coup, après, je le couche avec ça, ça fait comme une espèce de gros rouleau de peinture, mais tu vois, dans ton champ. Et après, je sème là-dedans.
Tout ça, c'est à vous, là, le champ, là, les champs au-dessus et tout, c'est à vous.
Bah là, c'est notre zone de verger, donc c'est les productions de fruits.
C'est les pruniers qu'on voit, là, les fleurs violettes.
Les fleurs violettes, c'est les pêchers, les fleurs blanches, c'est les pruniers, ouais. On a des super pêchers, ils font des grosses pêches, comme ça.
Ah ouais. Quelle variété.
Des cagettes et des cagettes, c'est des sanguines.
Ah ouais.
Des rouges, là.
Ouais, je vois.
Elles sont hyper bonnes.
Là, sur la gauche, t'as mis des oignons, des poireaux.
Ça, c'est de l'ail sous paille. Ouais.
De l'ail sous paille.
Ouais, ça marche très bien. J'arrivais pas à faire du bel ail. L'ail sous paille, c'est fantastique.
Ah ouais.
Bah ouais, enfin, la peur des gens, c'est que ça pourrisse parce que ça maintient de l'humidité. Oui. En fait, c'est complètement irrationnel. Ça,
d'accord.
Ça aucun rapport.
Une belle motte de top là-bas.
De ratopiers, ouais, putain.
Ah, c'est un ratopier.
Ah, mais il y a plus de top. En fait, ils font la guerre entre eux, les ratopiers et les tops, et c'est les ratopiers qui gagnent.
Ouais,
et puis t'en as surtout en dessous, regarde, là.
Ouais.
En fait, là, tu vas là-dessous, en fait, t'as une chance sur deux de tomber sur une galerie. Ouais, cette année, je fais à peu près tout... En fait, comment ça marche à Graines del País, c'est qu'on a un certain nombre de variétés. Moi, je peux apporter les variétés que je veux.
Ouais.
Si une variété qui me plaît, je peux la mettre au catalogue. Du coup, pour ça, ben, il faut que... je la cultive, a priori que je la fasse certifier, même si au niveau de la certification, on commence à changer de... Normalement, on est certifié bio, mais là, maintenant, plus trop. Ensuite, je fais un descriptif, je la prends en photo, et je fournis un lot qui germe à Graines del País, et puis elle est en vente, quoi.
Et du coup, après, bah, quand tu mets une variété comme ça, normalement, tu es le référent de cette variété. Et puis, tous les ans, tu vas gérer sa production et aussi son, voilà, sa fiche sur Internet. Enfin, sa description. C'est, tu vas gérer un peu tout ce qui a trait à cette production, quoi. Et du coup, moi, j'ai des variétés dans à peu près toutes les espèces qui se cultivent. Que maintenant, bah, ça fait 2-3 ans que je les suis, quoi.
Mmh. Voilà. D'accord.
Donc, sous le voile de forçage, ouais, bah, il y a
de la mâche.
D'accord. Ouais. Elle est toute petite, là. Hein.
Là, elle est toute petite, ouais.
Ouais. Ouais. Là, vois, là, on voit bien la ligne.
Ouais. Ouais, elle est pas mal sortie, ouais.
Ah, mais t'as pas une salade, là, juste devant toi, là?
C'est une salade
le vert
sauvage.
Clair, ouais. Ah, sauvage.
C'est une salade sauvage. Ouais. Je sais pas, effectivement, elle ressemble beaucoup à une petite laitue, mais c'en est pas une.
Okay. Ouais. Et toi, les semences que tu fais, t'es à peu près certain que ça va marcher sur tout type de sol ou tout type de culture?
Oui, ça marchera sur tout type de sol parce que dans la mesure du possible, quoi, de ce qui est connu, de ce qui est déjà connu. Ouais. Oui, et à partir du moment où c'est fait correctement, c'est sûr. Mais les semences de maraîchage, en fait, on les a développées pour qu'elles perdent un peu leur spécificité. Notamment, il y a une dormance de la germination chez toutes les plantes sauvages. On l'a enlevée chez les plantes cultivées. Et faire germer une plante sauvage, c'est un calvaire. Mmh. C'est nous, d'ailleurs, on en fait à Grain del Pays des plantes sauvages et... nos tests de germination, c'est à chaque fois c'est l'aventure. cette fois-ci ça a germé. Tu sais pourquoi?
Non, je vois pas. Je fais pareil que l'autre la dernière fois.
Il y a des trucs si tu les sèmes pas à l'automne, ils ont besoin de temps de lumière. Enfin, ils ont besoin de calcaire, ils ont besoin d'acide, ils ont besoin d'azote, ils ont besoin de machin. En fait, ils ont les plantes sauvages, elles ont tout un tas de critères bien particuliers. Quand elles auront ces critères-là, elles vont prendre le risque de germer, quoi.
D'accord.
Et c'est très précis. Quand tu regardes comment ça se passe, c'est vraiment... c'est très précis. Et avant de trouver qu'est-ce qui fait germer une plante ou pas, ça, c'est pas évident. Ça, c'était beaucoup trop compliqué dans le maraîchage. Mmh. Du coup, on a fait en sorte qu'elles germent. Dès que tu arroses et que tu leur mets un peu de chaleur, elles germent, quoi.
Ouais.
Et en moyenne, les sols de jardin, ils sont aussi très... En fait, ils sont tellement amendés en moyenne, les sols de jardin, qu'ils tendent tous vers un peu le même truc. Mmh. Bon, après, c'est sûr que si tu es en sol sableux ou très argileux, ça va quand même faire une différence. Mais quand tu as mis suffisamment de fumier et de compost sur suffisamment, de toute façon, tu vois les sols noirs qui sont quasiment charbonnés, après, qu'ils soient sableux ou argileux, presque à un moment donné, tu ne verrais plus la différence. Quoi. Et du coup, ça va tout le temps pousser sur ce type de sol, oui.
D'accord.
Ça va, oui. A priori, mes graines, elles pousseront sûrement un peu mieux sur des types de sol plus bruts aussi. Mmh. Parce que là, elles sont
habituées à la dure.
Sont habituées un peu à la dure, ouais.
Bon, est-ce qu'on a fait le tour?
Non, pas du tout. Ah. Mais on peut aller voir par là. Il y a le jardin collectif, il y a la serre.
D'accord. Ah, la grande serre.
Ouais.
Alors, on dira, elle fait quoi?
30 mètres.
30 mètres. Sur à peu près 6 mètres de large.
7 mètres, ouais.
7 mètres.
Je crois 7 mètres.
Ah, et une qui est débâchée aussi. Donc ça, c'est votre jardin vivrier, quelque part.
La serre, c'est... C'est
vivrier ou c'est pour vendre?
C'est vivrier. Non, d'accord. Non, moi, à part les semis, je fais rien dans la serre. Il n'y a pas la place.
D'accord.
Et je m'en occupe pas, j'aime pas les serres, en fait.
Ah bon?
Bah, j'aime pas, en fait, cultiver avec plein de plastique.
Oui, c'est le problème.
Moi, dans l'idée, j'aimerais bien avoir trois outils, et puis tout faire avec trois outils, quoi.
Uh-huh. Et, en fait, j'ai vu, vous avez un tracteur pour toute la ferme.
Oui, bah, c'est déjà, t'as vu, il est beau.
Il est beau.
Oui, non, c'est largement suffisant. Hein,
ouais.
Mais enfin, moi, normalement, je m'en sers plus pour le maraîchage. Cette année, j'ai quand même fait les trois bandes là, que je te disais de cultiver, mais ça faisait trois ans que je m'en étais pas servi. Là, je fais des betteraves, tu vois, c'est ma deuxième année de betteraves.
Les betteraves de Tioga.
Tioga. Ouais. Elles sont prêtes, là, non?
Oh, bah, elles sont prêtes depuis l'été dernier, ouais, c'est deux ans les betteraves, en fait.
Et ça, elles ne montent pas en fleurs?
C'est des bisannuelles, je les ai plantées l'année dernière, à peu près à cette époque-là, un peu plus tard.
Ouais.
Elles ont fait leurs bulbes, et puis cette année, elles vont faire leurs fleurs. Si, si, là, elles vont partir, bah, tu le vois, elles commencent un peu à monter, là, tu vois, celle-là.
Celle-là, elle est un peu partie, je ne sais pas encore.
Uh-huh.
Non, non, mais bientôt, elles vont lancer leur, leur tige.
Ouais. D'accord.
Ouais, ouais. Là, je fais des choux et du persil.
Ouais, je vois. Ils se sont fait bouffer les choux ou quoi?
Non, c'est parce que les choux cabus, si tu leur coupes pas la tête,
ah,
en fait, ils n'arrivent pas à sortir.
Les choux cabus?
Bah, les choux à boulot.
D'accord.
Et, bah, tu vois, par exemple, celui-là, je l'avais pas fait trop. Et en fait, il a dû faire exploser sa boule.
Ah ouais, pour pouvoir
repartir. Il galère à les faire exploser, donc en fait, il vaut mieux leur couper.
Bon, eh bien, merci Sylvain. Et puis, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir.
Eh ben, pareil.
Allez. Il a gratouillé le chat mort. Tous nos remerciements à Sylvain pour avoir répondu favorablement à nos insistantes sollicitations. Ce programme est à réécouter en podcast sur le site internet radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.